VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, il est 7h en temps universel, à Washington, et 11h en temps universel. Bonjour à tous. La hausse des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois décidée par le président Donald Trump est rentrée en vigueur aujourd'hui à la première heure, renforçant encore les tensions entre la Chine et les États-Unis, alors que les négociations se poursuivent ici même à Washington. Ces produits jusque-là soumis à des droits de douane de 10% sont désormais taxés à hauteur de 25% depuis tôt ce matin. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Parmi les importations concernées figurent des produits chimiques, des matériaux de construction, du mobilier et de l'électronique grand public. La Chine a aussitôt indiqué qu'elle regrettait profondément la décision américaine et qu'elle prendrait des contre-mesures sans les détailler. Dans un communiqué, le ministère chinois du commerce dit espérer que Washington et Pékin trouveront un compromis et régleront le contentieux par le biais de la coopération et de la consultation. Cette hausse des droits de douane intervient au beau milieu de deux jours de négociations ici à Washington entre les délégations des deux premières puissances économiques de la planète, le représentant américain au commerce Robert Lighthizer, le secrétaire américain au trésor Steve Mnuchin et le vice-premier ministre chinois Liu Hye se sont rencontrés pendant une heure et demie jeudi à Washington. Ils ont convenu de reprendre leur discussion ce matin ici à Washington, a annoncé un porte-parole de la Maison-Blanche.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné un exercice de frappe à longue portée, a annoncé aujourd'hui l'agence étatique nord-coréenne KCNA, quelques heures après que Séoul eut fait état de tirs de missiles à courte portée. Ces tirs sont intervenus quelques heures après l'arrivée à Séoul de Stephen Bengun, le représentant spécial américain pour la Corée du Nord. Et les pourparlers de paix entre les responsables américains et talibans afghans se sont clos hier à Doha. L'attaque contre une ONG américaine à Kaboul n'a pas remis en cause les avancées dans ces négociations entamées depuis plusieurs mois. Raïssa Girondin.
Ce cycle a généralement été positif et constructif, a écrit Souhai Shahin, porte-parole politique des talibans à Doha. L'émissaire américain Zalmay Khalilzad n'a fait aucun commentaire. Après 8 jours de discussion, les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en échange d'une garantie que ce pays ne servira pas de refuge à des groupes terroristes. Les États-Unis souhaitent également négocier un cessez-le-feu et des pourparlers entre le gouvernement de Kaboul et les talibans, ce que refusent catégoriquement les insurgés. Le président afghan Ashraf Ghani a offert la semaine dernière un cessez-le-feu pour le Ramadan. Les insurgés ont repoussé l'offre et ont attaqué mercredi l'ONG américaine Counterpart International, faisant 9 morts. Et 20 blessés à Kaboul. Les talibans ont expliqué avoir ciblé cette ONG parce qu'elle encourageait la mixité homme-femme et faisait la promotion de la culture occidentale.
Ici à Washington, Donald Trump va nommer Patrick Shanahan à la tête du département américain de la défense où l'ancien cadre de Boeing assure actuellement l'intérim depuis la démission de James Mattis en décembre. Annonce donc de la Maison-Blanche jeudi l'intéressé que l'inspection générale du Pentagone soupçonnait d'avoir cherché à obtenir un traitement de faveur pour Boeing a été récemment innocenté.
Nos infos sur voaafrique.com.
Et les informations africaines maintenant. L'armée française a libéré 4 otages, 2 Français, 1 Américaine et 1 Sud-Coréenne lors d'une intervention dans le nord du Burkina Faso dans laquelle 2 militaires français ont été tués, a annoncé aujourd'hui la présidence française. Les 2 Français, Patrick Pic et Laurent Lassimoulias, avaient été enlevés le 1er mai dernier au Bénin, pays jusque-là épargné par l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, a annoncé lui avoir tué 13 membres présumés du groupe État islamique en Somalie dans une frappe aérienne mercredi dans le nord du pays. Les Chebab constituent de très loin le principal groupe islamique radical en Somalie. Ils ont proclamé leur allégeance à Al-Qaïda, organisation à laquelle ils ont été officiellement intégrés en 2012, mais un petit nombre d'entre eux, environ 200, a ensuite fait défection au profit de l'État islamique. Ces derniers sont basés dans la région semi-autonome du Puntland et leur leader est Abdulkadir Moumine, placé en août 2016 sur la liste des terroristes internationaux par le département d'État américain. La victoire du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 aux élections législatives se confirme aujourd'hui en Afrique du Sud, mais avec un score en nette baisse qui va compliquer les promesses de réforme du président Cyril Ramaphosa. Au terme d'une deuxième longue nuit de dépouillement, l'ANC est toujours en tête avec 57,2% des suffrages. Nous rejoignons à Johannesburg notre correspondante Patricia Ouan.
Pas de naufrage, mais pas de quoi triompher non plus. Le Congrès national africain, l'ANC, conserve comme prévu sa majorité au Parlement. Cela veut donc dire que le président Cyril Ramaphosa est certain d'être réélu par les députés le 22 mai. Le dépouillement des bureaux est toujours en cours avec plus de trois quarts des voix qui ont été comptabilisées. L'ANC obtient 57% des suffrages. C'est le score le plus faible jamais obtenu par le parti pour une élection nationale depuis son arrivée au pouvoir en 1994. L'ANC limite donc les dégâts, mais le renouveau promis par le président Cyril Ramaphosa n'aura pas suffi à enrayer la chute de l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid. L'opposition continue de grignoter son électorat sans pour autant effectuer de percée. L'Alliance démocratique obtient un peu moins de 22% des voix, plus ou moins le même score qu'en 2014. Le parti de Julius Malema obtient quant à lui 10% et s'impose comme la troisième force politique du pays. A noter aussi une participation assez faible, à environ 65%, preuve que ce scrutin n'a pas enthousiasmé les Sud-Africains. Patricia Lyon, Johannesburg, Lyon et Afrique.
La secrétaire générale du Parti des travailleurs algériens a été écrouée jeudi à l'issue de son audition par la justice militaire dans une enquête pour complot contre l'État et l'armée visant le frère du chef de l'État déchu, selon un responsable du Parti des travailleurs. Louissa Hanoun, c'est son nom, a été placé en détention provisoire, a déclaré à l'AFP le député Ramdam Youssef Tazibd, membre du bureau politique du Parti des travailleurs, précisant ne pas connaître les chefs d'inculpation qui lui ont été signifiés. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies va discuter ce matin à huis clos de la situation humanitaire en Libye après plus d'un mois d'offensive militaire infructueuse des troupes du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer du contrôle de la capitale libyenne Tripoli. Au Conseil de sécurité, les Occidentaux sont divisés sur ce qu'il convient de faire pour la Libye. Une proposition de résolution britannique demandant un cessez-le-feu n'ayant toujours pas à ce jour de soutien des États-Unis. Soutien du maréchal Haftar, la Russie a également fait part de réticence à la proposition britannique. La réunion de ce jour a été demandée par le Royaume-Uni, ont précisé des diplomates, et puis le début de l'offensive le 4 avril, selon l'ONU, les affrontements et les bombardements ont fait au moins 432 morts et plus de 55 000 blessés en Libye, pays riche en pétrole. Et cela dit, le maréchal Khalifa Haftar, un des belligérants dans le conflit libyen, a reçu hier le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de sa deuxième visite au Caire en moins d'un mois. Son rival Fayez al-Sarraj était lui en tournée européenne, Abdourahman Dia.
Le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi, a déclaré que le président Sissi a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de Khalifa Haftar dans la lutte contre le terrorisme et les milices extrémistes afin de parvenir à la sécurité et la stabilité en Libye. De son côté, le maréchal Haftar, dont la dernière visite au Caire remonte au 14 avril, a dénoncé l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. Sa visite dans la capitale égyptienne intervient après une tournée en Europe de son rival Fayez al-Sarraj, premier ministre du GNA. À Rome, à Berlin, puis à Paris et Londres, M. Sarraj a cherché cette semaine le soutien des Européens contre ce qu'il appelle l'agression de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. Les Occidentaux ont rappelé que la situation ne peut être militaire en Libye. Selon l'ONU, les affrontements et les bombardements ont fait au moins 432 morts et plus de 55 000 déplacés depuis l'offensive des troupes de Haftar le 4 avril dernier.
Et le premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Nguté, est arrivé jeudi à Bamenda, dans le nord-ouest, l'une des deux régions anglophones, a déclaré que le pouvoir était prêt à organiser un dialogue pour résoudre le conflit avec les séparatistes anglophones du Cameroun, pays à majorité francophone, militent pour la création d'un État indépendant dans les deux régions anglophones, et depuis fin 2017, des combats opposent presque quotidiennement l'armée déployée en nombre à des groupes épars de séparatistes armés qui attaques, gendarmerie et écoles multiplient les kidnappings. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.